Les Afterwork curieux.
Il y a un autre lien aussi qui concerne pas forcément les oreilles pour écouter de la musique, mais parfois pour certains styles de musique, on dit souvent l'adage, voilà, cette musique-là, ça s'écoute plutôt fort. Alors peut-être pas forcément le métal, parce que voilà, comme on a pu le voir, c'est déjà assez intense. Mais je sais pas, pendant la musique classique, qu'on a un bon système son pour pouvoir entendre tous les différents instruments, etc. Souvent, si on baisse le son ou s'il n'est pas assez fort, on ne peut pas apprécier cette musique à 100%. Je ne sais pas si c'est très clair, mais grosso modo, il y a aussi cette question de sensation physique au-delà de juste des oreilles.
Il y a quelque chose qui se passe là-dessus. C'est vrai que quand on sort de l'opéra et que vous entendez les gens discuter autour d'un verre sur le foyer de l'opéra, ils ont vu une œuvre symphonique. Les constatations des gens, souvent, c'est « j'en ai eu la chair de poule, ça m'a donné des frissons ». Mais ça, ce n'est pas les oreilles qui ont des frissons, hein. C'est tactile. Nous, on a des gens aussi dans les concerts qui recherchent la sensation physique que procure le volume sonore. Et que finalement, engueuler son enfant parce qu'il écoute trop fort de la musique dans sa chambre, en lui disant « mais non, mais si t'écoutes moins fort, t'entendras toujours tout ?» Oui, avec les oreilles, d'accord, mais il ne retrouvera pas la même sensation. Il faut comprendre que notre squelette vibre différemment avec les graves et les aigus. Les aigus font plutôt vibrer le haut du squelette, c'est-à-dire notre crâne notamment. C'est pour ça qu'un son trop aigu va vous vriller la tête ou un truc comme ça. C'est pour ça aussi que sur certaines musiques, on utilise plus les aigus, notamment musique sacrée, parce que ça va nous élever vers le ciel. Au contraire, les sons graves vont faire plutôt vibrer, les basses vont faire vibrer le bassin. Le bassin, c'est le sexe. Alors autant vous dire qu'en musique sacrée...
C'est un peu Satan, quoi.
Forcément. Et en plus de ça, par contre, à l'inverse, hein, si vous allez sur une piste de danse, si vous êtes DJ et que vous avez envie que les gens ils bougent leur popotin, vous serez tenté de mettre des grosses basses et de les mettre suffisamment fort pour faire bouger les corps, même si les gens n'apprécient pas plus que ça la musique que vous passez. En tout cas, ils vont bouger avec la musique, c'est physiologique. Finalement, c'est lié à l'anatomie. Il peut se passer d'autres choses si on veut le faire en musique et si on te demande, Jean-Cédric par exemple, c'est vrai qu'en musique il y a des moments, on l'a dit, pour les graves et les aigus, en tout cas la musique sacrée utilisait plus des aigus, mais il y a peut-être aussi des sonorités qui étaient plus utilisées sur des musiques entre guillemets sacrées qu'en métal.
Bien sûr, alors là on va parler un peu gamme. En musique sacrée, par exemple, on utilise un certain type de gamme qui sont plutôt agréables à l'oreille. Donc on parle plutôt de gamme majeure. Et puis, dans les musiques plutôt plus contemporaines, et tu citais le métal par exemple, on va parler que de gammes que l'on appelle diminuées, ou en tout cas qui sont beaucoup moins agréables à l'oreille, puisque les écarts entre les notes sont différents.
Enfin, en gros, c'est-à-dire qu'avant, c'était proscrit de faire le deuxième type de gamme que tu proposais dans l'histoire.
Exactement,
de
il y a un adage que vous connaissez peut-être qui s'appelle Diabolus in musica, donc le diable dans la musique.
C'était du latin, c'est ça?
C'était Satan, si tu jouais ces notes-là, et elles étaient carrément interdites. Hein.
Il n'y a pas Mozart qui était un peu punk sur ça? J'avais fait un peu... Non, mais je crois...
Mais après, je crois qu'il faut qu'on parle aussi des instruments qu'on avait à l'époque. Ouais. Et des instruments qu'on a aujourd'hui.
Est-ce que déjà tu peux nous faire écouter ce qu'est un écart entre deux notes qui était vu dans les musiques sacrées, donc par rapport à un écart diminué, comme tu le disais?
Eh bien, avec une séquence majeure, par exemple. Donc, ça va, quoi.
Ça flatte l'oreille.
Et on va juste diminuer un petit peu. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Du coup, les ténèbres... ça bat sur nous.
Donc c'était une manière finalement, et dans ta musique tu peux jouer avec ça, toi, de te dire je vais créer à un moment donné un malaise parce que je vais jouer ces notes un peu diminuées parce que ça va créer une tension et après libérer un peu le truc. Enfin, comment, quand on est artiste, on utilise ça?
Eh ben, tu m'as volé la vedette, hein. Mais bien sûr, un coup classique par exemple, ça va être pour de la musique à l'image, par exemple, pour de la musique de film, vous voulez créer une certaine tension, on va beaucoup partir sur des accords qui sont plutôt diminués, quelque chose de noir, qui est plutôt fermé. En tout cas, c'est un ressenti. Et je ne sais pas, en fonction de l'intrigue, où ça y est, l'histoire d'amour se révèle, on va partir sur quelque chose de plus ouvert, et là, quelque chose de plus majeur, ou en tout cas qui flatte peut-être un petit peu plus l'oreille. Mais toutes ces histoires, après, de... d'accords majeurs diminués, etc. On peut, après, d'un point de vue purement artistique, dans un même morceau, de temps en temps, glisser effectivement une note qui va venir peut-être chatouiller. Ça va peut-être amener une certaine tension ou ça va nous faire peut-être nous poser des questions puisque notre l'oreille l'entend et donc après, notre cerveau l'interprète.